This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cet hiver, je suis allée voir une pièce au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Elle s'appelait « Et le cœur fume encore ». En tout, il y avait 7 acteurs sur le plateau. 7 acteurs pour penser nos identités françaises et les oublis de la mémoire coloniale. À travers l'expérience algérienne, le spectacle interrogeait la pluralité des regards posés sur l'histoire et les liens féconds entre politique et littérature. En creux étaient posées des questions importantes. Comment écrire en pays dominé? Ou comment conquérir la langue du colon et faire du français un lieu de revendication identitaire? Ces enjeux habitent l'œuvre d'un écrivain algérien majeur, et c'est le choix de la sociologue de la littérature et écrivaine, Kaoutar Archi. Elle travaille particulièrement sur les liens entre la langue et la nation. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
J'ai eu beaucoup de mal à me décider quant au choix de l'ouvrage dont je souhaitais vous parler. Puis finalement, comme nous sommes le 8 mai 2020, en tout cas j'enregistre cet entretien le 8 mai 2020, je me suis dit qu'il serait intéressant de nous situer à l'intersection de l'histoire, de la littérature, mais aussi du mémoriel, en remontant le temps jusqu'à cet autre 8 mai, le 8 mai 1945. Cette date est importante, elle correspond à l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie. C'est une date qui possède, on pourrait dire, un envers, puisqu'elle correspond aussi à la survenue des massacres en Algérie, de Sétif, de Guelma et de Kerata, où près de 40 000 civils algériens ont été tués. Cet événement a été fondamental dans la trajectoire d'un homme, en particulier Kateb Yassine, dans les modalités de sa venue et l'écriture, et fondamental aussi dans l'œuvre qui en a été produite, à savoir ici, Nejma. Nejma est donc un roman qui a été publié en 1956, en pleine guerre d'Algérie, aux éditions du Seuil, à Paris. Nejma raconte donc l'histoire de 4 personnages masculins, Mustapha, Lagdar, Mourad et Rachid. Et on pourrait même en percevoir un cinquième du nom de Kamel. Ces hommes sont tous liés d'une manière singulière, puisque tous vouent une passion amoureuse pour une femme mystérieuse du nom de Nejma. Nejma est décrite en ces termes. Étoffe et chair fraîchement lavée, Nejma est nue dans sa robe. Elle secoue son écrasante chevelure fauve, ouvre et referme la fenêtre. On dirait qu'elle cherche inlassablement à chasser l'atmosphère, ou tout au moins à la faire circuler par ses mouvements. Sur l'espace frais et transparent de la vitre, les mouches blotties se laissent assommer ou feignent la mort à chaque déplacement d'air. Nejma s'en prend ensuite à un moustique, avec un mouchoir dont elle s'évente en même temps. Épuisée, elle s'assoit à même le carrelage. Son regard plonge dans l'ombre. Elle entend remuer la broussaille. Ce n'est pas le vent. Les seins se dressent. Elle s'étend. Invivable consomption du zénith. Elle se tourne se retournent, les jambes pliées le long du mur, et donnent la folle impression de dormir sur ses seins. Page après page, chacun de ces hommes raconte sa relation à Nejma, raconte la manière dont il espère la posséder. Et il est important de noter que l'objet de cette quête, Nejma, dans le récit de Kateb Yassine, n'a jamais la parole. Le récit est donc pris dans une forme de tension. C'est bien sûr la tension de la violence coloniale, mais c'est aussi la tension de la dispersion, du rassemblement. C'est la question de la perte aussi, c'est la question des retrouvailles. Et c'est finalement ce qui vient dynamiser le récit. Ce qu'on peut ressentir en disant Nejma, c'est une grande complexité dans le déploiement du récit, dans l'identification des narrateurs, ou encore à travers la relation des scènes entre elles. On peut aussi être frappé, émerveillé ou effrayé par la langue, qui est une langue extrêmement poétique, tragique. Il y a quelque chose, on pourrait dire, qui se dégage d'elle, qui relève du mythe et qui vient brouiller notre rapport à la réalité de ce qui est décrit. Ces deux éléments, à la fois la complexité narrative et le rapport à la langue française, sont au fondement de la démarche littéraire de Kateb Yassine, traversée par des enjeux politiques extrêmement puissants. En effet, au regard des nombreux entretiens que l'écrivain a accordés à la presse et qu'on retrouve regroupés dans l'ouvrage précieux « Le poète comme un boxeur », il apparaît que ce que cherche à réaliser Kateb Yassine, c'est asseoir la légitimité du geste littéraire algérien. C'est affirmer l'existence et la grandeur d'une vision du monde autonome, propre au peuple algérien. C'est lutter, au sens fort du terme, pour bâtir un récit, le récit de la libération du peuple algérien, alors placé sous le joug colonial depuis 1832. Cette relation, cette tension est souvent exprimée par Kateb Yassine à travers la question de la poésie et de la révolution. Pour cela, Kateb Yassine engage un récit dans le but, selon ses propres mots, de montrer à la France, à la nation littéraire par excellence, qu'il était, lui, l'indigène, le colonisé, capable d'écrire une histoire aussi complexe, aussi élaborée, aussi réfléchie que celle qui parsème l'ensemble littéraire français. La question du rapport à la langue est pour sa part aussi prise dans une tension similaire. En effet, Kateb Yassine maîtrise la langue amazighte, la langue arabe, mais c'est en français qu'il écrit Nejma dans le but, selon ses propres mots, d'expliquer aux Français, en français, que l'Algérie n'est pas française. Ces quelques éléments que je suggère ici très rapidement montrent à quel point le littéraire et le colonial sont liés. En 1956, le récit paraît et je vous propose d'écouter la manière dont Kateb Yassine perçoit et comprend cette publication. Quand le livre a paru, il a été bien reçu par la critique, mais je me rendais compte que c'était un succès empoisonné, un faux succès, et comme la guerre se prolongeait, ma situation devenait de plus en plus difficile ici. Il y a eu une perquisition de la DST dans ma chambre. Ça commençait à sentir le roussi. Et comme un éditeur italien avait acheté les droits de Nejma, je suis allée en Italie. Et là, il y a encore une chose à dire. Comment et par qui les écrivains sont soutenus quand ils n'ont pas d'autre existence que celle d'écrivain ? J'aime beaucoup ce passage et plus globalement les entretiens que Kateb Yassine a pu accorder à la presse. Puisque s'y révèle véritablement à la fois ses qualités d'écrivain, de poète, plus tard ses qualités de dramaturge, mais aussi ses qualités quasi analytiques de sa propre situation. Il est aussi l'écrivain qui va dire ce qu'est la vie d'écrivain, ce qu'est la condition d'écrivain, a fortiori dans un contexte comme celui de la période coloniale. Ces éléments qu'on pourrait qualifier d'éléments politiques ou d'éléments plus critiques font que Nejma est un récit intellectuellement important pour moi, Mais intimement, je pourrais dire qu'il l'est aussi tout autant. C'est un récit que j'ai découvert à l'adolescence. À l'époque, je n'en lisais que des fragments qui me touchaient parce que je trouvais la poésie, les métaphores déployées d'une extraordinaire beauté. Puis c'est un livre qui m'a poursuivie aussi lorsque je me suis mise moi-même à écrire mon premier roman, Zone cinglée, en 2009. C'est un roman qui est demeuré présent aussi dans l'écriture de mon second roman, L'ampleur du saccage, qui a paru en 2011 aux éditions Actes Sud. Puis j'ai intégré ce récit au corpus d'études de ma thèse de sociologie qui portait sur la manière dont le champ littéraire français a légitimé ou non les écrivains placés en situation coloniale. C'est donc un livre que j'ai lu, puis que j'ai cessé de lire pour ne plus que le feuilleter finalement, le parcourir, en saisir quelques expressions qui restent des expressions fortes et émouvantes. J'en ai plusieurs exemplaires qui traînent un peu partout chez moi, au bureau, chez mes parents. Voilà, ça fait partie des choses qui sont ici et là. Et j'espère que c'est un livre que vous lirez. J'espère que c'est un livre que vous allez relire ou vous allez simplement refeuilleter si vous le connaissez déjà. En tout cas, c'est un livre, il me semble, qui dit quelque chose d'une époque, qui dit quelque chose d'un homme, mais qui dit aussi quelque chose des lecteurs et des lectrices qui, à un moment donné, ont rencontré son chemin.
Vous venez d'écouter Kaoutar Archi à son micro et elle vous recommande Nejma de Kateb Yassine, disponible chez Point. Kaoutar Archi est sociologue de la littérature française et écrivaine. Elle est l'autrice du roman « À l'origine de notre père obscur » paru chez Actes Sud et de l'essai « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne » chez Pauvert. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club avec l'aide de Maëlle Diallo. Elle a fait le montage de cet épisode et Tristan Mazir a réalisé le mixage. Je vous recommande les épisodes de Travail en cours, notre nouveau podcast qui interroge les bouleversements du travail et sa place dans nos vies. Bonne écoute et à très vite.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Je présente mon billet, elle prend mon téléphone, elle agrandit, je vois qu'elle zoome, elle me dit « mais c'est un faux billet, madame ».
Et ce jour-là, je suis avec mon frère et je me dis « mais il se fout de moi ou quoi ?»
Je lui demande à quelle heure il rentre et là, il me ment sur l'horaire de retour et il me donne un horaire 3 heures plus tard.
Sur les coups de midi, je sais pas pourquoi, je vérifie mon application bancaire et je me rends compte que j'ai été débitée de 400 euros sur mon compte bancaire.
Je vois le policier regarder son écran, on voit qu'il y a un pavé, quoi. Et là, il me regarde et il me dit « Monsieur, je peux pas vous dire ce qu'il y a sur mon écran. Par contre, regardez-moi bien droit les yeux, fuyez. »
Je fais une marche arrière.
Et à ce moment-là, une jeune fille arrive en courant.
On lui hurle par la fenêtre que nous sommes toutes ses meufs.
Donc je lui dis « À toi, ramène ton cul ici tout de suite parce que ça va partir en cacahuète. »
Lover, voleur. Une série de 4 épisodes, tournée par Lisanne Larbani, après son enquête dans Libération à propos de Lesti, le caméléon de Tinder. Et à écouter à partir du 22 avril dans Passage, notre podcast d'histoire vraie. À très vite.